l'atelier des médias.
C'est la dernière de l'atelier des médias avant la pause estivale. L'atelier, un projet porté par Simon Decreuse, Mathias Virilli, Camille Deloche, Manon Mella. Je suis Ziad Malouf et l'émission de ce jour est signée Mélissa Barra. Restez avec nous.
L'atelier des médias.
RFI.
Ziad Malouf, Simon Decreuse.
Et vous.
Nous continuons d'explorer cette semaine un univers médiatique parallèle, celui des séries TV. La semaine dernière, nous avons vu comment il a absorbé le nôtre jusqu'à s'installer au cœur du quotidien. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux séries comme reflet de notre imaginaire collectif, mais aussi comme constituant de notre vision du monde. Les séries TV sont partout, dans nos conversations, sur nos écrans, sur les affiches publicitaires, dans nos échanges en ligne. L'une d'entre elles est particulièrement envahissante et intéressante aussi. Elle est envahissante sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Game of Thrones, une production d'inspiration médiévale et fantastique qui raconte les guerres sanglantes auxquelles se livrent différents royaumes.
Dans le monde entier,
ça, c'est Mélissa Barr.
Chaque semaine, des millions de regards se braquent hypnotisés sur Game of Thrones. Et la Turquie du président Recep Tayyip Erdogan ne fait pas exception. Pourquoi je vous parle de la Turquie ? Eh bien, il y a quelques semaines, je suis tombée sur un article intitulé « Game of Gezi ». Gezi, c'est le nom d'un parc situé à Taksim, un quartier d'Istanbul. En mai 2013, le gouvernement turc souhaitait raser cet espace pour y construire un centre commercial. Pour beaucoup de Turcs, ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase politique. Plusieurs milliers de manifestants sont descendus dans les rues et se sont fait violemment réprimer par la police. Un an après les manifestations de Gezi, le magazine Soap a publié l'article en question. Intrigué par son titre,
Game of Gezi,
j'ai contacté son auteur sur Twitter et deux jours après, il m'a raconté cette histoire.
Alors à l'issue de ce qu'on pourrait appeler le printemps turc, donc en mai et juin 2013, je suis retourné en France. J'ai un ami journaliste qui a regardé mes images et qui a remarqué en fait une image qui ne m'avait pas particulièrement marqué sur le coup. C'était une image assez simple d'un mur avec des inscriptions sur une devanture de magasin fermé. Et là, il y avait marqué « Tayyip, winter is coming ».«
Tayyip, l'hiver approche ».«
L'hiver approche », qui en fait est une référence directe à une série télé, « Game of Thrones », que des Turcs, comme partout dans le monde, regardaient abondamment et téléchargeaient, comme tout le monde, je pourrais dire, donc qui étaient totalement au fait des derniers épisodes et des derniers rebondissements de cette série.
Get the lads to saddle their horses.
Do you have to?
He swore an oath can't.
Law is law, my lady.
Tell Bran he's coming too.
Ned, 10 is too young to see such things.
He won't be a boy forever. And winter is coming.
Je m'appelle Yann Schmidt-Whitley, j'ai 40 ans, je suis photojournaliste depuis 2 ans et demi. En 2014, je suis retourné en Turquie pour plusieurs mois et en habitant là-bas, en fait, on regardait Game of Thrones avec mes colocataires turcs. Donc, ça m'a donné l'idée d'écrire un article et de voir dans quelle mesure, quel a été le processus pour qu'un slogan directement lié à une série télévisée se retrouve sur les murs d'une insurrection populaire dans un pays majoritairement musulman, qui n'a pas forcément les mêmes références culturelles que l'Ouest, et de voir s'il y avait quelque chose derrière. Donc j'ai commencé par mes colocataires et leurs amis, et à les interroger. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré plusieurs personnes, j'ai mené quelques interviews. Et en fait, je me suis rendu compte que les séries télé et les fictions, pour beaucoup de gens, avait une importance qui était peut-être plus importante, ou en tout cas différente, que celle que les gens pouvaient avoir en France, notamment du fait de la pauvreté de choix dans les médias. Parce qu'il y a une grande autocensure qui s'opère dans les médias turcs. Et juste une petite aparté, les deux premiers jours de Gezi, de l'insurrection dans ce parc, une grande partie des chaînes télévisées en fait n'en ont pas du tout parlé. Et une des principales chaînes a même diffusé un reportage sur les pingouins pendant 3 heures. Ou 2 heures, je sais pas. Donc le pingouin, en fait, est devenu le symbole de la résistance. Et ensuite, on retrouvait des pingouins dans tout ce qui avait trait à Gezi. Était souvent, il y avait un pingouin. Et certaines personnes que j'ai interviewées ont fait des parallèles, toujours sur Game of Thrones, sur la manière dont le pouvoir était instauré, la manière dont la main droite de Erdogan qui était Fethullah Gülen à la tête d'une confrérie qui s'est retournée contre lui, l'a trahi un peu comme, j'en rappelle plus du nom des personnages, mais un peu comme la main droite avait trahi le roi dans la série. Donc ça pouvait désoler certaines personnes qui étaient au fait de la politique en général, mais c'était aussi un peu une réalité où, par dépit peut-être, les gens se sont tournés vers la fiction pour essayer de comprendre un peu plus leur réel, qui, il faut le dire, était assez irréel parce que beaucoup de décisions sont prises de manière irrationnelle. Et parfois, c'est dur de trouver une logique, même en tant que Turc, en connaissant parfaitement le contexte politique et sociologique et juste ambiant. Certaines décisions politiques sont assez dures à comprendre. Alors, en regardant cette série de HBO, Game of Thrones, et en faisant, pas un comparatif, mais en tout cas en regardant en parallèle ce qui se passait en Turquie, politiquement, parfois on peut y voir des similitudes. Ensuite, c'est dur de mettre en rapport un monde imaginaire médiéval et un pays en 2013 avec un système politique moderne. Ce qui rapprochait le monde de Game of Thrones à la Turquie, c'est peut-être le règne de l'arbitraire. Le roi du pouvoir n'est pas féodal en Turquie, mais il y a quand même beaucoup de traits qui font penser à des allégeances de familles, de clans, et qui peuvent avoir un poids politique en fait sur certaines villes ou certaines régions. Donc c'est vrai que se servir d'une fiction ou d'une série télé comme clé de compréhension, ça paraissait tout à fait acceptable et faisable par pas beaucoup de gens.
Le mouvement de Gezi a été largement médiatisé sur les réseaux sociaux. Il a pris appui sur plusieurs représentations et images symboliques. C'est en tout cas comme ça que je l'ai perçu depuis la France. Je pense par exemple à cette vidéo qui a beaucoup circulé sur Internet et qui montrait un derviche tourneur portant un masque lacrymogène.
Game of Thrones, pingouin, soufisme, de prime abord, ces références n'ont rien à voir les unes avec les autres. Pourquoi la jeunesse turque est allée puiser dans un imaginaire culturel aussi hétérogène pour faire passer ces messages?
La jeunesse turque est très connectée et s'intéresse beaucoup à ce qui se passe un peu partout, mais en tout cas une certaine jeunesse, on va dire une jeunesse urbaine qui étudie, a plus ou moins les mêmes références qu'un jeune berlinois, parisien ou madrilène. C'est-à-dire que dans tout ce qui est séries télé, les séries turques sont un peu comme des telenovelas, donc s'adressent à une certaine catégorie de la population. Donc les jeunes ne vont pas du tout s'y retrouver. Et ils vont plus se retrouver dans des séries comme House of Cards ou Game of Thrones ou des séries contemporaines ou Homeland. Donc en ça, la jeunesse urbaine turque se retrouve dans beaucoup de codes de l'Ouest. Sans pour autant oublier qu'il y a toute une partie de la culture turque qui est tournée vers l'Est et que ces jeunes ont aussi les clés de compréhension de ces mécanismes qui à l'Ouest peuvent paraître au mieux exotiques et au pire on n'en a aucune compréhension ni même de connaissance. Une partie de la population en Turquie est clairement entre deux influences et c'est ce qui fait la différence entre la majorité de la population turque qui est plus tournée vers l'Est que cette minorité jeune, apolitique. Alors il n'y a pas que des jeunes, mais pour schématiser, en tout cas ces personnes qui étaient à Gezi ont des référencements culturels qui sont mixtes mais qui sont beaucoup loués à l'Ouest et qui ont une connaissance parfaite du calendrier pour revenir sur les séries télévisées. Il y a même eu des spoilers le jour où attention spoiler.
Tu me dis rien du tout, t'es fou quoi.
Ah mais attends, c'est bon.
Non, tu dis pas.
Pour ceux qui n'auraient pas écouté l'émission précédente, petit point vocabulaire, sachez que cette expression spoiler signifie que Jan Schmidt-Witlev a dévoilé une information importante de l'intrigue de Game of Thrones. Si vous n'avez pas encore vu la saison 4, je vous invite à boucher vos oreilles pour une quinzaine de secondes.
Mais le jour où Jeffrey s'est fait assassiner, quelques jours plus tard, il y avait des tags dans la rue qui disaient « Attention Taïp, Joffrey est mort ». Donc voilà, l'épisode était passé quelques jours auparavant. Sachant qu'il y a eu beaucoup de slogans qui ont été faits sur les murs, mais quelques-uns prenaient comme référence cette série en particulier, Game of Thrones, mais sûrement d'autres séries, ça j'ai pas forcément vu, n'étant pas complètement bilingue en turc, loin de là, je suis passé aussi à côté de beaucoup de choses.
Ce témoignage de Jan Whitley Schmidt nous rappelle à quel point les séries sont omniprésentes. Elles sont devenues des références culturelles et politiques universel.
En ce sens, Game of Thrones serait comme un cours de science politique appliquée. Et ce qui est encore plus frappant, c'est qu'aux yeux de certains observateurs de la géopolitique contemporaine, ce qui s'applique à la Turquie peut aussi s'appliquer à des espaces politiques plus larges. C'est d'ailleurs la thèse d'un ouvrage paru en février 2016. Je suis allée à la rencontre de son auteur, membre fondateur de l'Institut français des relations internationales, Dominique Moisy.
Alors, Dominique Moisy, auteur de la géopolitique des séries, paru chez Stock.
Pourquoi vous, en tant que géopolitologue, vous êtes intéressé aux fictions télévisuelles? Quelle est la place de ces séries dans l'analyse géopolitique?
Alors, j'avais écrit il y a quelques années un livre qui s'appelait « La géopolitique de l'émotion, comment les cultures de peur, d'humiliation et d'espoir façonnent le monde ». Et je voulais prolonger ma recherche, et ce sont mes enfants qui m'ont dit « Mais papa, tu ne peux pas continuer à parler de géopolitique comme tu le fais si tu ne t'intéresses pas aux fictions télévisées. Et tu devrais absolument regarder Game of Thrones, tout le monde le fait. » Eh bien, j'ai suivi mes enfants et je me suis rendu compte que leur intuition était juste. Que si je voulais attirer vers la géopolitique un public beaucoup plus large, eh bien, les séries télévisées étaient un outil de compréhension incontournable.
Est-ce que, à votre avis, l'engouement que l'on ressent pour les séries télévisuelles depuis quelques années est en lien avec un changement du monde contemporain?
Alors, je crois qu'il est d'abord en lien avec le changement des séries elles-mêmes. Depuis la fin du XXe siècle, elles se sont transformées en termes de qualité. Il y a beaucoup plus de moyens. Ce qui permet d'attirer les meilleurs scénaristes, les meilleurs directeurs, les meilleurs acteurs. Et on peut dire que la série devient un genre noble, entre guillemets, dès la fin du XXe siècle, avec une série comme Soprano, avec des séries comme Twin Peaks. Et le Metropolitan Museum de New York va reconnaître ce nouveau statut des séries en faisant une exposition sur les séries 2 et 3 des Sopranos dès l'année 2001. Donc je crois que c'est les séries elles-mêmes qui changent. Mais, et c'est toute la thèse de mon livre, c'est au moment où changent les séries que change le monde. Et il y a une rencontre entre le temps des séries, entre guillemets, et le temps du monde qui se transforme profondément autour du 11 septembre 2001. Et les séries vont envahir l'imaginaire du monde. Mais par quoi est dominé l'imaginaire du monde? Par la peur qui suit les attentats terroristes du 11 septembre 2001. Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'en choisissant les séries qui me paraissaient les plus représentatives sur le plan géopolitique, je suis arrivé à construire un catalogue des peurs du monde. La peur du chaos, avec peur et fascination pour le chaos, avec Game of Thrones, la peur du terrorisme, avec Homeland, la peur de la fin de la démocratie, ou du rêve américain, avec House of Cards, la peur du retour de la menace russe, avec Occupied, et d'une manière plus légère, parce que la série n'est pas dominée par la peur, quand même la peur de la fin d'un ordre social avec Downton Abbey. Le passage d'un ordre à un autre se traduisant par la nostalgie pour le monde qui est en train de disparaître.
D'où vient cette peur?
Je crois que cette peur est incontestablement, dans le monde occidental, accélérée par les événements du 11 septembre et ce qui a suivi. Les attentats terroristes à Madrid, à Londres, et plus récemment à Paris et à Bruxelles. Donc il y a des raisons légitimes d'avoir peur. Ça n'est pas seulement une invention de cerveau dérangé. Mais en réalité, je crois que cette peur, elle va au-delà du 11 septembre. Elle précède sans doute le 11 septembre. Elle est le produit d'un monde qui n'a plus de règles du jeu claires. Au fond, on passe du monde de la guerre froide, dans lequel il y a la peur aussi, la peur du nucléaire, la peur de la confrontation armée entre ces deux puissances atomiques que sont les États-Unis et l'URSS. Mais il y a des règles du jeu et il y a deux acteurs principaux. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est infiniment plus compliqué, où les acteurs se sont démultipliés. D'ailleurs, sur ce plan, c'est très intéressant de voir que le monde de la guerre froide correspond à un monde dominé par le film, le cinéma. Et dans un film, vous avez un, deux, trois héros principaux au maximum. Dans le monde des séries, comme elle a un temps tout à fait différent, vous avez beaucoup plus de héros. Il n'y a pas de sous-héros. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant de bâtir un parallèle entre le passage du cinéma à la série et le passage de la guerre froide au monde apolaire, nous dirions, sans pôles principaux dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et ce que je crois, c'est que les séries, les meilleures d'entre elles, sont devenues l'équivalent de ce qu'étaient les feuilletons dans la littérature du XIXe siècle. Vous vouliez comprendre la France ou la Grande-Bretagne du XIXe siècle, vous deviez lire Balzac, Flaubert, Dickens. Vous voulez comprendre la réalité internationale du XXIe siècle, vous devez voir Game of Thrones, House of Cards, Homeland.
Le livre de Dominique Moisy, intitulé « La géopolitique des séries », développe cette thèse qu'il vient de nous résumer, à savoir que les séries reflètent un monde contemporain dominé par la crainte. L'auteur s'appuie dans son ouvrage sur 5 séries dont il analyse la portée géopolitique et symbolique. J'ai profité de notre rencontre pour lui demander de détailler son regard sur 2 des séries qu'il évoque. Avant de vous parler de Homeland, faisons un détour par l'univers de Game of Thrones.
Les séries télévisées sont entrées directement dans notre monde. Quand je voyais tel passage de Game of Thrones sur la question des réfugiés. Dans le cas de Game of Thrones, les réfugiés venus du Nord, par opposition aux réfugiés venus du Sud, dans la réalité, j'étais fasciné, car il y avait une dialectique, une interaction évidente entre le monde réel et le monde de la fiction, au point qu'on pouvait se demander parfois si ce n'était pas la fiction qui inspirait la réalité plutôt que l'inverse. Il y a des scènes qui sont extraordinaires. Vous avez une scène qui évoque la pièce de théâtre devenue film, Le Souper. À un moment donné, deux héros de Game of Thrones, dont l'un est eunuque et l'autre patron de bordel, traitent de la réalité du monde comme s'ils étaient Talleyrand et Fouché. Et cette réflexion sur le pouvoir, à un moment donné, l'un des deux personnages dit « Le chaos est une échelle qui nous permet de monter au sommet », je suis persuadé qu'il y a des personnages réels qui s'expriment de la sorte, ou qui en tout cas agissent en fonction de ces principes. Je crois que c'est un cours de realpolitik dans ce que la realpolitik peut avoir de plus brutal et parfois de plus sophistiqué.
Un messager est arrivé cette nuit.
Daenerys Targaryen a épousé un seigneur Dothraki. En quoi cela nous concerne-t-il? Doit-on lui envoyer un cadeau?
Un couteau, oui, peut-être. Une bonne lame tranchante et un homme brave pour la manier.
Elle est à peine sortie de l'enfance.
Bientôt, cet enfant écartera les jambes et commencera à pondre.
L'idée de tuer un enfant est effroyable.
Oh, c'est cela qui te semble effroyable? Je tuerai tous les Targaryens que je pourrai atteindre.
Celle-ci risque d'être difficile à atteindre.
Nous sommes avec le chercheur Dominique Moisy, auteur de « La géopolitique des séries » paru en février 2016 chez Stock. Dans son ouvrage, il explique l'importance pédagogique des fictions télévisuelles dans la compréhension du monde et de ses conflits. Courte pause avant de permettre à Dominique Moisy de vous parler d'une autre série culte américaine qu'il évoque dans son livre « Homeland ».
L'atelier des médias.
Bienvenue à bord du vaisseau Atelier des médias. Nous interrogeons cette semaine la capacité des séries TV à refléter notre imaginaire collectif, mais aussi à le façonner. Dans la première partie, nous avons évoqué les fictions télévisuelles comme prisme de lecture de la politique et même de la géopolitique contemporaine. Mélissa Barra a discuté avec le géopolitologue Dominique Moisy du succès planétaire Game of Thrones. L'auteur de La géopolitique des séries, Dominique Moisy, nous livre maintenant son regard sur une autre série américaine culte, Homeland, diffusée depuis octobre 2011.
Que tout le monde dégage !
À 16h42, heure locale, un missile tiré par un drone a partiellement détruit une localité située dans les montagnes au nord de l'Irak.
L'atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon de Creuse.
Et vous.
Alors, ce qui est très intéressant dans Homeland, c'est que c'est une série inspirée d'une série israélienne.
Qui s'appelle Hatoufim,
prisonnier de guerre. Ce sont les mêmes auteurs, les mêmes scénaristes, qui sont passés d'un monde à l'autre et qui ont reproduit au départ la même histoire. Donc il s'agit de l'enlèvement de soldats israéliens dans Hatoufim, d'un marine américain dans Homeland, et très vite va se poser une question centrale: est-ce que ceux ou ces soldats, pendant leur période de captivité, où on apprend qu'ils se sont convertis à l'islam, est-ce qu'il n'est pas devenu un agent ennemi? Et est-ce que l'ambition du héros de Homeland n'est pas de devenir un terroriste? Et c'est le héros terroriste. Donc ça traduit cette interrogation profonde de l'Amérique sur elle-même. Qui est l'ennemi? Et si la menace, elle ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur? Interrogation qui est d'une très très grande actualité après les événements de Paris et de Bruxelles, où les terroristes étaient nos enfants. Ce n'est pas des gens qui venaient de très loin pour nous tuer. Ils étaient nés chez nous. Mais je crois que la série... Alors, tout dépend des saisons, car il y a des moments plus ou moins bons, et souvent très fidèle dans sa description des relations entre la CIA et le Pentagone, le ministère de la Défense, dans les relations entre les services de renseignement et les services diplomatiques. La saison 4 en particulier, qui se déroule au Pakistan, me paraît particulièrement crédible. Ça a dû se passer comme ça quelque part.
Quand vous dites « ça a dû se passer comme ça quelque part », donc il y a une envie de réalisme, mais en même temps une sorte d'envie de presque de dénonciation. Vous écrivez dans votre ouvrage, on peut lire Homeland comme un catalogue des erreurs qui ont mené à l'apparition de Daesh.
Oui, on voit un traitement plus nuancé des talibans et l'apparition d'une autocritique très forte, qu'on pourrait traduire en termes de Molière. Qu'avons-nous été faire dans cette galère qu'est le Moyen-Orient? Rien de bon ne peut sortir de notre implication dans cette région du monde, dit à un moment donné un des héros américains de la série.
Et dans cette série, justement, il y a constamment, en tout cas dans les saisons 4 et 5, il y a constamment une remise en question de la part de l'héroïne Carrie, des décisions qui ont été prises, des choix stratégiques, des choix militaires, c'est-à-dire l'utilisation des drones, la question des victimes collatérales. Et donc ça, est-ce que ça représente une sorte de remise en question des choix américains et des intérêts américains par les Américains eux-mêmes?
Oui, mais ça, les Américains en débattent en réalité. La question des dommages collatéraux, absolument, le débat existe avec cette question: qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste? Et il est intéressant de voir que le président le plus opposé à l'intervention militaire sur le terrain des États-Unis, Barack Obama, est celui qui, un peu en conséquence de cela, a utilisé le plus les drones.
On a vu ensemble que l'actualité influence énormément les séries télé. Est-ce qu'à l'inverse, les séries télé influencent celles et ceux qui façonnent l'actualité et le monde d'aujourd'hui?
Lorsque, pour le tournage de la saison 5 de Homeland à Berlin, les producteurs, metteurs en scène, demande à des artistes arabes de peindre des vrais graffitis sur de faux murs, eh bien, ils le font. Sauf que les premiers spectateurs de la série qui voient ces graffitis et qui lisent l'arabe disent « Mais ils ont écrit « Homeland est raciste » sur les graffitis. »
Est-ce que c'est fondé, à votre avis ?
Oui, mais la formule « Homeland est raciste » va très loin. Non, je crois que les séries des pays démocratiques tendent à faire preuve de plus de nuances que les séries des régimes autoritaires. Allez voir une série chinoise, c'est la grandeur de l'Empire. Allez voir une série russe, c'est la gloire des combattants soviétiques en Crimée pendant la Deuxième Guerre mondiale. La moindre nuance d'autocritique, il faut vraiment la chercher pour la trouver.
Donc dans ce genre de pays, les séries ont plus un but propagandiste.
Tout à fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans les pays autoritaires, les séries tendent à sacraliser le pouvoir. Dans les régimes démocratiques, elles mettent l'accent, au contraire, sur la désacralisation du pouvoir.
Ce qui est frappant avec le scénario de Homeland et celui de Hatoufim, Homeland a repris la trame principale de Hatoufim, cette série israélienne, c'est que ces deux séries s'inspirent d'une histoire vraie et de la polémique qui l'a suivie aux États-Unis. Depuis décembre 2015, cette même histoire est racontée par la journaliste américaine Sarah Koenig dans un podcast documentaire qui s'appelle Serial. On en a déjà parlé dans l'atelier des médias.
Oui, la deuxième saison de la série radiophonique Serial raconte les 5 années de captivité du sergent américain Bo Bergdahl aux mains des talibans en Afghanistan. Il a été relâché en mars 2014 en échange de la libération de 5 prisonniers talibans.
Sa captivité puis sa libération ont fait beaucoup parler d'elle aux États-Unis. Bergdahl s'est fait kidnapper en juin 2009, c'est-à-dire 10 mois avant le lancement de la série Hatoufim et presque 2 ans avant la diffusion de Homeland. Dès juillet 2009, certains ont accusé Bergdahl d'avoir déserté au moment de sa capture par les talibans. Sur la chaîne Fox News, un ancien colonel de l'armée américaine a même affirmé qu'il avait fui Bergdahl dans le but de collaborer avec les talibans, une opinion partagée par une frange de la population américaine. Bergdahl, lui, affirme qu'il souhaitait se rendre dans un autre camp américain pour dénoncer des problèmes de gestion dans son unité.
À la libération de Bergdahl, 5 ans plus tard, une enquête a été ouverte pour déterminer les conditions de son départ et de sa capture. Le soldat sera jugé en cour martiale à partir de février 2017. Il encourt la prison à vie.
Aujourd'hui, on ne peut pas connaître l'influence qu'une série comme Homeland a pu avoir sur l'image du sergent Bergdahl auprès de ses détracteurs ou même auprès de l'opinion américaine. On ne peut pas non plus savoir quelle influence a eu la série The West Wing, en français à la Maison Blanche, sur l'élection d'un président américain noir 9 ans après la diffusion de son premier épisode. Et on pourra peut-être aussi s'interroger sur l'influence de House of Cards sur l'accès ou non de la femme d'un ancien président, Hillary Clinton, à la présidence des États-Unis.
En définitive, quelle responsabilité pèse sur les créateurs de séries ? Quelle influence peut avoir leur imagination sur l'opinion ?
En bonne sériephile que tu es, Mélissa, tu as souhaité rencontrer les scénaristes et réalisateurs de productions françaises que tu as appréciées cette année pour leur poser ces questions. Après les séries anglophones Homeland et Game of Thrones, focus sur 2 grandes séries françaises, Baron Noir et tout de suite le Bureau des Légendes.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des Médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
Je m'appelle Éric Rochant, je suis auteur-réalisateur, donc j'écris des scénarios et je réalise des films. Pas seulement des films, puisque j'écris et je réalise aussi des séries, et en particulier la série qui s'appelle Le Bureau des Légendes, sur Canal+.
J'avais vu une photo de vous, mais j'étais pas sûre.
Bonjour.
Je suis Marina Loiseau. C'est un honneur, hein, vraiment. C'est une chance.
2 ans dans le comptoir d'air avant.
Costard bleu ?
Non, un peu plus à gauche.
Un grand en veste, chemise rose et un type en blouson de jean, 30 ans à peu près.
Parfait. Je voudrais leur nom, prénom, profession, numéro de portable. Je vous donne un quart d'heure.
Donc c'est une trame qui est au cœur du renseignement français. Pourquoi ce choix de raconter de l'intérieur cet univers, ce milieu ?
Alors les services de renseignement m'intéressent beaucoup. Parce que, d'abord, ils permettent de parler du monde extérieur, puisque les services de renseignement s'occupent de l'extérieur. La DGSE s'occupe de l'extérieur, et donc ça permet, à travers elle, d'avoir une vision du monde qui m'intéresse parce que dépassionné, désidéologisé, lucide, un service secret, un service d'espionnage, un service de renseignement se doit d'informer le gouvernement pour lequel il travaille, d'informer le mieux possible, de le renseigner le mieux possible sur le monde et les menaces extérieures. Et donc il se doit d'avoir une vision très lucide, très pointue, de faire des analyses très pertinentes du monde extérieur. Et donc ça, je trouve que c'est un point de vue qui m'intéresse plutôt que le point de vue de l'opinion, le point de vue de la passion. Alors je pense cela. Ça, c'est intéressant parce que c'est au-delà de ce qu'on de nos avis, quoi. C'est ce qu'ils essayent de décrire ce qui est.
Et donc on parle d'un sujet, d'une institution qui existe réellement, un univers qui est bâti sur le secret, qui est le secret défense. Vous, en tant que scénariste et réalisateur, comment vous vous êtes documenté pour comprendre, pour acquérir les connaissances concernant une institution que personne connaît en fait?
Alors c'est vrai que évidemment un service secret est c'est secret, donc a priori on peut pas rentrer dedans, on peut pas rencontrer les gens qui sont des espions ou des agents du renseignement. Ils viendront pas vous parler, et s'ils viennent vous parler, vous saurez pas qui c'est, hein. Alors il se fait que j'avais fait un film qui s'appelle Les Patriotes et qui était sur les services de renseignement israéliens, sur le Mossad, et c'est un film dont le réalisme avait assez plu au service secret français pour qu'ils s'en servent, a priori, qu'ils s'en servent pour illustrer quelques-uns de leurs propos au moment de la formation des agents. Tout ça pour dire que j'étais plutôt bien considéré par la DGSE. En venant, en me rencontrant de temps en temps, moi, je pique des choses. Je pique des choses, ne serait-ce que sur leur façon d'être des agents, que je vois, comment ils s'habillent, comment ils parlent, comment ils se comportent, à travers les quelques anecdotes totalement inoffensives qu'ils peuvent me raconter, qui sont probablement du ressort de la propagande, il n'empêche que ça me fait marcher mon imagination. Et donc, nous, quand on écrit, nous les scénaristes, quand on écrit une histoire même qui se passe à la DGSE, on fait d'abord marcher notre imagination. Et ensuite, on fait marcher aussi notre raisonnement. Parce qu'on se dit, parce qu'on veut être réaliste, on se dit, en fait, ce qui détermine la réalité, c'est juste que c'est plutôt rationnel, quoi. Les gens agissent de manière plutôt rationnelle. Ils ont un métier, ils ont une formation. Si on fait preuve de bon sens, on arrive à imaginer ce que peut être les soucis et les préoccupations d'un agent de renseignement qui essaie de manipuler quelqu'un. On sait très bien qu'il doit être discret, on sait très bien comment qu'il ne doit pas se y aller avec des gros sabots, on sait très bien qu'il ne doit pas se faire griller. Voilà, donc l'imagination, c'est quelque chose. Il y a une autre voie de documentation, ce sont les livres. Les agents écrivent des livres. Ce qui est bien, c'est que des fois, les agents se font virer, par exemple, de leur service de renseignement. Et du coup, pour se venger, ils écrivent des livres. Donc c'est plutôt pas mal, parce que là, ils révèlent des choses. Et ensuite, il y a aussi les articles de journaux, c'est-à-dire les articles documentaires. Et là, nous, on lit beaucoup, on lit énormément. Mais là, c'est plutôt pour, effectivement, avoir une bonne vision du monde qui nous entoure et des enjeux géopolitiques dont on s'occupe. Et là, effectivement, on lit beaucoup d'articles. On cherche évidemment à être réaliste. Ça, c'est notre leitmotiv. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on veut que les gens vibrent à nos histoires. Et pour que les gens vibrent à nos histoires, il faut qu'ils y croient. Il faut qu'ils croient aux enjeux. Il faut qu'ils croient aux objectifs des uns et des autres. Et pour qu'ils y croient, il faut donner le semblant du réalisme. Alors, c'est un peu bizarre, c'est un peu paradoxal. Parce qu'en fait, on ment un peu, mais on veut que c'est le parfum le plus parfait de vérité.
Quelle vision du monde contemporain, de l'actualité contemporaine, de la géopolitique contemporaine est offerte et véhiculée par votre série ?
Je pense qu'on a affaire, et la série le dit, à un monde qui n'est plus celui d'une guerre froide ou chaude entre deux grandes entités, ça c'est sûr. Eh bien, je pense que on entre dans un cycle qu'on pourrait appeler de Troisième Guerre mondiale, parce que ça concerne énormément de pays, parce que énormément de pays sont impliqués dans ce conflit et sans lesquels on ne pourra pas le résoudre, et que la guerre est exportée de là où elle semble avoir commencé, c'est-à-dire en Irak et en Syrie. Elle s'exporte à la faveur du terrorisme, la terreur, ça a terrorisé les populations pour faire pression sur les gouvernements. C'est une technique qui a toujours existé dans toutes les guerres. Donc là, c'est une arme comme les autres. Et donc, ça nous implique et ça nous plonge dans la guerre. Alors, ça nous plonge dans une guerre très spéciale, dont on peut difficilement dire maintenant qu'elle est ailleurs, qu'elle se passe là-bas, loin, et qu'elle ne nous concerne pas. C'est compliqué de dire ça maintenant. Donc, le Bureau des légendes décrit ce monde probablement plus complexe, où il n'y a pas deux super-pouvoirs qui se font la guerre, il y en a plus. Il y a des petits pays et des grands pays, ça c'est sûr. Il y a des pays qui ont du pouvoir et des pays qui n'en ont pas. Mais il y a plus de le pouvoir est un peu mieux réparti. Et du coup, ça rend la solution extrêmement complexe.
L'imagination et la vision du monde des scénaristes sont les matières premières de leur création. Et à leur tour, leurs séries nourrissent notre imaginaire social et collectif. Elles ont un impact sur notre regard car elles nous donnent à voir plusieurs visages de la réalité politique, sociale ou humaine.
Quel pouvoir politique peuvent avoir les séries? Jusqu'où peuvent-elles influencer nos opinions? Mélissa, tu as interrogé les scénaristes d'une série qui parle justement de pouvoir et qui se déroule dans une France à mi-chemin entre fiction et réalité. Cette série, c'est Baron Noir. Elle compte 8 épisodes et a été diffusée du 8 au 29 février dernier.
Jean-Baptiste Delafont, scénariste de la série Baron Noir pour Canal+.
Éric Benzekri, scénariste de la série Baron Noir pour Canal+.
Donc vous avez choisi de situer votre histoire au cœur même d'un camp politique français qui est le Parti Socialiste, donc qui est un parti qui existe réellement en France, à travers le prisme de deux personnages antagonistes qui sont pour le coup fictifs. Pourquoi vous avez choisi de faire un portrait de quelque chose de réel, d'un parti politique réel et des profondeurs politiques françaises qui sont celles d'aujourd'hui ?
Pour que les spectateurs qui regardent Baron Noir se sentent pas dans un monde fictif, mais dans leur monde. Et donc, pour crédibiliser notre histoire, on a pris les vrais noms des partis, les vrais noms des médias aussi. Il y a même des journalistes qui existent vraiment, qui interrogent des hommes politiques dans Baron Noir.
En fait, pour aller dans le sens de ce que dit Eric, plus on est réaliste, plus on peut être romanesque. Si on est tout de suite dans un univers qui ne ressemble pas au nôtre, les sentiments extrêmes ont l'air ridicules, tout simplement. Donc, voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on travaille. Le but, c'est d'abord de divertir, de s'amuser, de procurer des émotions que la fiction peut amener. Moi, je pense que la série a une fonction pédagogique possible, je pense vraiment. Bon, je pense qu'on apprend plein de choses. Après, on les retient pas parce que c'est de la fiction, sauf si on la revoit, etc. Mais on propose au spectateur un itinéraire au sein d'un monde qu'il connaît pas forcément de près et qu'il a tendance à énormément critiquer de loin. Le fait de lui proposer cette expérience d'aller à l'intérieur du monde politique avec sa logique propre, ses difficultés propres, ses dilemmes, etc., en fait, de lui faire éprouver une forme de complexité du réel, c'est quand même un peu pédagogique en soi. C'est-à-dire que, voilà, ça évite d'être dans un rapport à la politique purement binaire, de café du commerce et de défouloir.
Ce qu'on essaye de faire pour expliquer des choses complexes, c'est pas de les simplifier au maximum, parce qu'elles perdraient de leur intérêt si on les décomplexifiait. C'est de passer par des émotions pour les faire comprendre.
Pour beaucoup de gens qui regarderaient la série, ils doivent se dire, bon, entre les détournements de fonds, les chantages, les manipulations, les coups fourrés, ils doivent se dire, c'est à ça que ressemble réellement le Parti Socialiste. Est-ce que c'est des choses que vous avez vécues ou... C'est-à-dire, parce que ça reste quand même une image assez forte, assez violente, assez sombre.
En fait, une simple lecture assidue des journaux démontre aisément qu'il y a eu des problèmes dans les organismes HLM, que ce soit à gauche ou à droite, qu'il y a eu des emplois fictifs, y compris au Front National, qu'il y a eu du clientélisme, y compris dans les mairies communistes, et que tous les partis sont touchés par ce mouvement-là. Ce n'est pas très intéressant en soi. On n'aurait pas fait la série si on avait eu à raconter ça, parce que ça ne suffit pas. Ce qui nous a intéressé, c'est de décrire comment la corruption n'était pas simplement détestable d'un point de vue moral et éthique, mais qu'elle était un des vecteurs de l'impuissance de la politique et donc de l'impossibilité de défendre des idéaux parce qu'on a à cacher une affaire.
Qu'est-ce que ça vous fait d'imaginer, de penser que peut-être ce que vous avez créé, puisse agir sur l'opinion, sur la vision qu'ont les gens de la société et de la politique française. Eric Benzekri ?
Ben, c'est évidemment une responsabilité. On ne peut pas raconter n'importe quoi quand on parle de sujets comme ça. Il faut faire attention parce qu'il peut y avoir une influence. Il y a eu une polémique en France il y a quelques années après l'élection de Jacques Chirac pour son deuxième mandat de président de la République, parce que les guignols de l'info, qui sont les marionnettes de Canal+, à l'époque, on les avait accusés d'avoir représenté la marionnette de Chirac de façon très sympathique. Et il y avait eu une polémique en France sur « mais en fait, Chirac a été réélu grâce aux guignols ». Évidemment que non, et même, c'est un peu insultant. C'est des marionnettes, c'est un programme humoristique. Bon, moi, je pense que les gens font la différence. Après, est-ce que ça vient influer, au fond, un espèce d'inconscient ? Oui, sans doute. Baron Noir, mais plein d'autres choses encore. La publicité, une image, une affiche. On est tous influencés par tout un tas de matériaux, mais... les gens savent bien que Baron Noir, c'est pas la réalité. Voilà.
Notre voyage dans l'univers des séries TV touche à sa fin. Pendant 2 semaines, nous avons exploré l'essor, la consécration de ce genre télévisuel. Les séries nous divertissent, nous obsèdent, elles nous font réfléchir sur nous-mêmes et sur le monde. Elles sont aujourd'hui un mass-média, un média de masse qui a suscité des pratiques sociales nouvelles, mais aussi un langage et un imaginaire collectif propre. Les fictions télé alimentent l'image que nous nous faisons des autres, des comportements humains et des phénomènes de société. C'est la raison pour laquelle tu as trouvé, Mélissa, que ces fictions avaient leur place dans les réflexions que nous portons ici à l'Atelier des médias.
Quand j'ai commencé à m'intéresser aux séries d'un point de vue journalistique et sémiologique, ce qui m'a le plus marqué, c'était leur dimension informationnelle. En tant que passionnée de fiction télé, sans me rendre compte, je façonnais mon regard sur la réalité au gré des épisodes de séries. Une saison de Narcos, par exemple, m'a appris davantage sur certains rouages du trafic de drogue et de la corruption dans mon pays d'origine, la Colombie, que les 20 ans passés à lire et à écouter les médias colombiens. Cette réflexion a eu un impact sur ma façon d'envisager mon propre métier, le journalisme. Elle a soulevé plusieurs interrogations. Comment raconter des histoires passionnantes et pertinentes à la fois ? Comment rendre les autres sensibles à un sujet ? Certains journalistes se sont tournés vers les fictions télévisuelles car leur storytelling, leur récit, offre parfois de meilleurs mécanismes pour expliquer l'actualité.
C'est le cas du créateur du succès mondial The Wire, il s'appelle David Simon. Après avoir passé 12 ans à couvrir la justice et les faits divers dans un grand journal de la ville de Baltimore aux États-Unis, il s'est consacré à l'écriture de scénarios de télévision. C'est ainsi qu'est née en 2000 la série 3 fois primée aux Emmy Awards The Corner. Elle nous plonge dans le marché de la drogue dans un quartier de Baltimore. 2 ans plus tard, David Simon fera à nouveau de cette ville le personnage principal d'une autre fiction, The Wire, qui est le portrait urbain, social et politique de Baltimore. Durant les 6 années de la diffusion de cette série, les critiques ont été unanimes. Le réalisme documentaire de la création de Simone est remarquable. Elle a d'ailleurs, cette série, été sacrée meilleure série de tous les temps par le magazine américain Time.
Les séries ont le pouvoir de nous faire ressentir, nous faire comprendre, nous faire vivre le monde. Elles sont parmi nos meilleurs témoignages du passé, du présent et parfois du futur. Pour le géopolitologue Dominique Moisy, les séries sont devenues de formidables outils pour représenter la marche de l'histoire.
Ce qui est passionnant dans la série, quand elle est bien faite, quand elle est réussie, c'est qu'elle se développe sur plusieurs saisons. C'est qu'elle a ce que j'appelle le temps du temps, que vous pouvez fréquenter de multiples personnages et sur une période étalée. Donc vous développez avec ces héros une relation particulière. Quand ils disparaissent, vous êtes presque orphelin d'eux. Et quand vous les retrouvez, c'est comme des retrouvailles avec un membre de votre famille avec lequel vous aviez perdu le contact, mais que vous êtes heureux de retrouver. Non, je crois qu'il y a une spécificité de l'image. Lire, c'est bien. Voir, c'est plus.
L'Atelier des médias,
C'était l'Atelier des médias en voyage au pays des séries télé. En complément de ce reportage, nous vous conseillons le numéro de janvier-février 2016 du magazine Carto consacré à la géopolitique des séries télé, un excellent dossier réalisé par la journaliste Francesca Fattori. L'Atelier des médias, un projet, une émission signée Manon Mella, Mathias Virilli, Camille Deloche, Simon Decreuse, Mélissa Barra cette semaine et Ziad Malouf. Salut à toutes et à tous. Excellentes vacances d'été pour ceux qui en prennent. Nous nous retrouvons quant à nous en février. Dès le mois de septembre, c'est Julien Lepot qui sera à ce micro. À bientôt.
Des éclairs dans le reflet de ses yeux. Il cherche la lumière à tâtons. Dans une mise en abîme.
Jusqu'au 10 juin.